Radio Okapi.
Okapi service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous écouter partout où vous êtes en RDC. Merci, vous êtes dans votre bureau, vous êtes à la maison, vous êtes dans votre voiture. Merci également à tous les internautes qui nous écoutent sur www.radiookapi.net. Quelle est la contribution des jeunes dans la protection de la forêt du bassin du Congo? On en parle tout à l'heure avec le professeur Amundala Drazo, expert en faune sauvage. Professeur Amundala Drazo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'être, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous intervenez à partir de l'université de Kisangani. On vous retrouve dans quelques instants pour parler de la contribution des jeunes dans la protection de la forêt du bassin du Congo. Dans la deuxième partie de ce programme, nous allons aborder ce thème. Quels sont les moyens de transport adaptés aux centres urbains? On fait face presque chaque jour à des embouteillages. Il y a la congestion du trafic. Alors, quels sont les moyens de transport adaptés aux centres urbains pour faciliter la circulation, etc. Eh bien, nous en parlons à partir des 11h05 heures de Kinshasa dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Pour participer, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de ces programmes. Jean-Claude Siala à la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Okapi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Bien à présent, nous allons parler environnement, et surtout la contribution des jeunes dans la protection de la forêt du bassin du Congo. Eh bien, la forêt du bassin du Congo en Afrique centrale est le deuxième massif forestier tropical après la forêt amazonienne. Elle couvre près de 3 millions de kilomètres carrés et est partagée entre 6 pays. Les jeunes dépendent aussi des produits de la forêt par la chasse, la cueillette, la coupe de bois pour la fabrication des macalas et autres. Et pourtant, ils peuvent être impliqués aussi dans la protection du bassin du Congo. Alors comment le faire? Comment arriver à les impliquer pour protéger la forêt, la biodiversité, le climat, etc. Nous allons en discuter dans quelques instants avec notre invité, professeur Amundala Drazo. Il est expert en faune sauvage, voilà, donc faune sauvage. Il intervient en partie de l'université de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Professeur Amundala Drazo, ravi de vous retrouver encore dans cette émission. Nous parlons de la contribution des jeunes dans la protection de la forêt du bassin du Congo. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce qu'on peut dire que les jeunes sont impliqués ou pas?
Un grand merci, monsieur le journaliste, pour nous avoir associés à cette émission. Nous devons dire que de manière générale, le jeune s'implique activement dans la conservation de la forêt du bassin du Congo, dans la mesure où, d'abord, ils sont acteurs eux-mêmes, ils exploitent ces ressources. Mais il faut dire que dans beaucoup de villes à l'Est, notamment, les jeunes s'associent pour essayer de protéger la biodiversité et la forêt. Vous savez qu'il y a, des choses qu'on devait faire aussi pour cette jeunesse, de manière à lui donner un peu plus de possibilités pour que cette jeunesse puisse prendre véritablement en compte cette richesse qui est mise à sa disposition. Je vais tout de suite dire, par exemple, que ici à Kisangani, par exemple, il y a plusieurs associations de jeunes qui essaient chaque année à pouvoir planter des arbres, à pouvoir sensibiliser les communautés autour d'elles, autour d'eux, de manière à ce que les autres communautés, les autres habitants, etc., essaient de faire pareil. À Bounia, à l'Est, pratiquement, les jeunes sont véritablement impliqués. Mais il y a une chose que je dois dire, dans la plupart des grandes villes où j'ai circulé à travers le pays, on se rend de moins en moins compte qu'il y a des zoos, par exemple, des jardins zoologiques. Or, c'est dans les jardins zoologiques ou les jardins botaniques que les jeunes devaient venir apprendre, n'est-ce pas, le rôle et l'importance de toutes ces essences, de toutes ces espèces qui existent pour qu'ils puissent véritablement protéger ces ressources-là. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne connaît pas, n'est-ce pas, quelqu'un qui ne connaît pas une espèce puisse avoir la possibilité de pouvoir la protéger? Voilà donc un peu de manière ramassée pour dire que les jeunes s'impliquent en dépit de manques, en dépit de tout ce qu'on devait mettre à leur disposition pour essayer de préserver la biodiversité. La jeunesse essaye, tant bien que mal, à pouvoir préserver cette biodiversité.
Et quels sont les défis ou les problèmes qui nécessitent l'implication de la jeunesse?
Il faut d'abord, il y a un problème d'encadrement. Vous voyez, il y a un vrai problème d'encadrement. Les jeunes ne sont pas encadrés. À l'époque, je me rappelle, il y avait des colonies de vacances, par exemple. Il y avait des groupes organisés par l'État ou par des structures étatiques, etc., pour essayer de donner des informations à la jeunesse. Vous voyez, si je considère le jeune de peuple autochtone, prenons cet exemple. Vous allez voir que chez les peuples autochtones, il y a une initiation lors de la période de circoncision, par exemple, où on met les jeunes ensemble, les jeunes hommes, je vais dire. Mais bien sûr, il y a aussi pour les jeunes femmes. On essaie de les mettre ensemble pour leur donner des rudiments nécessaires, n'est-ce pas, pour préserver la biodiversité autour d'eux. Mais chez les Bantous, ça n'existe presque plus. Et à mon avis, les zoos, les jardins zoologiques ou les jardins botaniques devaient être des centres où les jeunes devaient venir apprendre le rôle, n'est-ce pas, de ces différentes essences. Pourquoi préserver ces groupes, etc., et essayer finalement de les préserver. Mais aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes se rendent compte, par exemple, les jeunes qui sont impliqués dans la fabrication de braises, ils se rendent de plus en plus compte qu'il n'y a plus de bois, de très bon bois pour fabriquer la braise. Eux-mêmes, ils se disent, attention, nous devons commencer à planter des arbres à croissance rapide, etc., pour que nous puissions avoir ces essences disponibles et alors pouvoir gagner de l'argent. Mais ça devait venir des structures un peu mieux organisées pour essayer de mettre ces jeunes-là à l'abri de toutes les autres mauvaises choses, etc. Et vous savez, dans la région de l'Est, par exemple, avec toute l'insécurité qu'il y a, la vie devient de plus en plus chère, et donc les jeunes sont en tout cas laissés presque à leur triste sort, quoi.
Bien. Alors aujourd'hui, comment les impliquer davantage à protéger? Est-ce qu'il s'agit seulement des jeunes qui vivent autour des forêts, ou bien les autres jeunes qui sont un peu plus loin peuvent aussi être impliqués?
Voilà. Et donc une des choses qu'il faut faire, c'est qu'on devra essayer de regrouper ces jeunes-là en coopérative, par exemple. Le jeune qui s'intéresse à la menuiserie, on devrait les impliquer et les soutenir, les dire, par exemple. Aujourd'hui, il y a des vrais problèmes. Il y a des essences qui sont beaucoup plus exploitées que d'autres, n'est-ce pas? On dit, par exemple, que c'est la Phormosia, c'est la Phormosia qui est beaucoup plus exploitée parce que cette essence-là, c'est un nombre de qualités. Mais on devrait alors essayer de dire à cette jeunesse, écoutez, en dehors de la Phormosia, vous avez d'autres essences, par exemple, le bois rouge, etc., les autres, qui ont d'autres qualités beaucoup plus intéressantes aussi, de manière à réduire la pression sur cette espèce-là, sur cette essence-là. Et donc, regrouper les jeunes en coopérative donnerait la possibilité de pouvoir les encadrer et leur donner des informations nécessaires de manière à ce qu'ils puissent bien gérer l'environnement. Mais ceci dit, les jeunes eux-mêmes essayent tant bien que mal, n'est-ce pas, avec les CRR et tout. Mais s'il y avait des structures correctes, capables de les organiser, je pense que les choses iraient pour des mieux. Mais aussi les autres qui s'intéressent à l'exploitation de bois pour la braise. On devait les organiser pour dire, pour faire, pour rendre votre activité durable, voici comment vous pouvez faire les choses. Les encourager, par exemple, à créer des structures pour fabriquer le foyer amélioré de manière à consommer moins la braise. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire pour la jeunesse de manière à durabiliser ce qu'ils sont en train de faire et ainsi contribuer à lutter contre les changements climatiques et à préserver la biodiversité dans notre milieu.
Là, par exemple, à Kisangani, vous êtes professeur. Comment vous faites pour impliquer les jeunes?
Oui, moi-même, je crée une petite structure ici dans laquelle il y a essentiellement des jeunes, en tout cas de toutes disciplines, qui ont fini à l'université et qui n'ont pas encore d'emploi. On les utilise, ils sont formés pour écrire des projets, n'est-ce pas? Des projets bancables, capables de leur donner la possibilité d'avoir un peu de moyens. Et comme ça, tous ces projets qui sont écrits visent justement à préserver la biodiversité. Et donc, ces petites structures sont installées ici à Kisangani, mais il y a aussi des succursales à Bouya, et on a des liens avec des collègues qui sont à Zoum, etc., pour essayer de regrouper ces jeunes-là. Parce que si nous ne les faisons pas, nous sommes en train, nous-mêmes, de détruire notre environnement. Et les conséquences, c'est nous-mêmes qui allons les subir. Donc, nous avons organisé des petites structures, en tout cas des jeunes qui ont un certain niveau, malheureusement jusque-là, mais on va essayer d'aller jusqu'au niveau de ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, qui n'ont pas eu la chance de finir leurs études. Comme ça, on pourra les encadrer et leur donner la possibilité de pouvoir travailler correctement. Donc, on a des structures, des ménageries, des jeunes qui viennent recevoir des petits conseils chez nous, comment ils peuvent faire pour réduire la consommation de bois d'œuvre qu'ils utilisent, etc., etc.
Bien. Alors, comment impliquer les jeunes dans la protection de la forêt du bassin du Congo? On en parle aujourd'hui avec notre invité, le professeur Amunda Ladrazo, expert en faune sauvage. Et pourtant, professeur, on dit souvent que les jeunes, ils s'intéressent beaucoup plus aux réseaux sociaux actuellement, Facebook, etc. Est-ce qu'il sera possible peut-être d'amener l'environnement là où ils se retrouvent beaucoup plus dans les réseaux sociaux?
Oui. Bon, c'est vrai. Il y a des jeunes qui s'intéressent aux réseaux sociaux, mais je pense que une bonne manière, c'est de montrer à la jeunesse ce qu'il y a autour d'eux. Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais imaginez si vous organisez par exemple, des séances musicales au zoo. C'est beaucoup plus instructif, n'est-ce pas? Vous invitez les jeunes là-bas, ils dansent, mais au même moment, ils voient à côté d'eux les okapis, les éléphants, les léopards, les lions, des animaux qu'ils ont toujours vus dans des films, etc. Et qu'ils arrivent à les voir à live. Et on leur dit, écoutez, si vous voulez garder encore plus longtemps ces animaux, voici comment vous pouvez faire pour conserver leur habitat. Ça, c'est une des techniques beaucoup plus importantes, parce qu'ils voient, ils vivent. Ils voient ces arbres-là, vous voyez? Et ils voient comment ces animaux contribuent justement à préserver cette biodiversité. C'est vrai, les réseaux sociaux existent, mais je me dis, peut-être c'est des situations des grands centres. Vous pensez qu'à Yaliko Kamboso, ici, tout le monde utilise les réseaux sociaux tels qu'ici. C'est pas tout le monde d'abord qui a la possibilité d'avoir de téléphone, hein, à mesure d'accéder à ces réseaux sociaux, n'est-ce pas? Il y a des endroits où vous pouvez utiliser ça, mais il y en a d'autres pour lesquels vous avez vraiment la possibilité d'utiliser les matériels didactiques autour de vous en vue de pousser la jeunesse à pouvoir conserver la biodiversité. Et je pense qu'à mon avis, la jeunesse est vraiment disposée à le faire. Il suffit d'un petit encadrement, des structures d'encadrement. La jeunesse peut être à mesure de pouvoir véritablement conserver la biodiversité et son implication, à mon sens, sera beaucoup plus importante.
Bien, merci aux internautes qui ont réagi. Younous nous a écrit depuis le Sud Kivu. Il dit c'est pour impliquer les jeunes, il faut les sensibiliser, les amener à connaître, à se rendre compte de leur importance dans la société congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à sa réaction?
Oui, tout à fait, il a raison. Vous savez, depuis un certain temps, la jeunesse qui n'est pas encadrée semble ne pas avoir des repères, des modèles, vous voyez, pour que quelqu'un puisse faire, que les pédagogues disent, je pense qu'ils sont en train de me suivre, et que environ 90% de ce que l'homme fait résulte des limitations, n'est-ce pas? Et donc, la jeunesse doit pouvoir trouver des modèles, des repères, n'est-ce pas, qu'elle doit pouvoir suivre. S'il n'y a pas de repères, ben, la jeunesse va prendre n'importe quelle direction. Et donc, on doit pouvoir sensibiliser la jeunesse pour que celle-ci comprenne son rôle dans le développement et dans la conservation de la biodiversité. L'ami qui vient d'appeler a tout à fait raison. Et donc, la jeunesse doit être sensibilisée, encadrée pour lui donner l'orientation qu'il faut. Voilà.
Bien, on va accueillir Glody de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, et bonjour au professeur et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Glody?
Oui, merci pour la parole accordée. Moi, je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment très nécessaire. Car cela les tient. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de connaître des problèmes de la biodiversité. Les jeunes doivent connaître que la biodiversité a des impacts économiques et sociologiques sur notre société congolaise. Si nous détruisons notre environnement, on va assister toujours à des problèmes. Alors, moi, j'aimerais juste peut-être passer aux questions à monsieur le professeur. Monsieur le professeur, ayant suivi votre intervention, vous êtes en train de dire des choses qui sont sérieuses et vraies. Mais j'aimerais peut-être que vous pouvez descendre un peu à un niveau là qui peut faire à ce que toutes les jeunes puissent comprendre. Si vous pouvez d'abord expliquer d'abord à nos auditeurs qui nous écoutent à partir de ces moments de savoir c'est quoi d'abord la biodiversité, c'est quoi l'environnement, dans des termes simples. Il ne faut pas aller vraiment trop technique parce que celui qui n'est pas agronome ou bien environnementaliste ne va rien comprendre. Si vous pouvez aller un peu dans les explications un peu terre à terre, qui peut faciliter tous les auditeurs qui nous écoutent à partir de ce moment à bien comprendre c'est quoi d'abord la biodiversité. Et vous pouvez aussi dire quelque chose, et c'est par là qu'ils peuvent comprendre, parce qu'il y a certains actes que nous, jeunes, nous posons dans l'environnement, peut-être on ne sait pas des conséquences qui peuvent arriver. Vous comprenez par exemple, un jeune peut prendre des sachets, il jette en cours de route, mais il ne sait pas que ça a des impacts écologiques, ça a des impacts de la pollution des stocks comme ça. Mais quand vous essayez de l'expliquer, voilà, quand vous posez tel acte, par exemple, au niveau de l'environnement, voilà les conséquences qui peuvent arriver peut-être 5 ans ou 10 ans après. Et quand il comprend des choses comme ça, il va être déjà sensibilisé de ce que, voilà, si je pose tel acte au niveau de l'environnement, ça a des conséquences néfastes au niveau de l'environnement. Et c'est ça peut-être qu'on peut quitter à ce stade que nous sommes, on peut avancer à un niveau pour que les jeunes puissent comprendre au moins. C'est un peu ça ce que j'ai voulu poser comme question. Et la deuxième question, monsieur le professeur, dans votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour encourager les jeunes à comprendre sur la biodiversité? Dans votre niveau en tant que scientifique, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous proposez faire? C'est ça au moins les deux questions que j'ai dit et je vous remercie.
Bien, merci. Professeur Amundala, à vous la parole.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je remercie également mon ami qui vient de poser deux petites questions, si j'ai bien retenu. La première, c'est qu'est-ce qu'on appelle la biodiversité? Et la deuxième, qu'est-ce que vous avez déjà fait, messieurs les professeurs, et qu'est-ce que vous proposez faire pour aider la jeunesse à préserver la biodiversité? Bien, la biodiversité, de manière simple, c'est la variabilité des êtres vivants, n'est-ce pas? Cette grande variabilité de tous les êtres vivants. Et cette variabilité, c'est structure à trois niveaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique. Vous voyez? Nous sommes tous, moi et vous, et celui qui vient de poser la question, nous sommes tous des homo sapiens sapiens. Mais nous avons des différences sur le plan taille, etc., et tout ça. Et c'est là, ce sont là les expressions génétiques. Et donc, il y a une diversité génétique qui existe. Le deuxième niveau de la biodiversité, c'est la biodiversité spécifique. Il y a plusieurs espèces. Il y a l'espèce de singe, il y a toutes les espèces que vous connaissez. Ça, c'est ce qu'on appelle la biodiversité spécifique. Et le troisième niveau de la biodiversité, c'est la biodiversité écosystémique. Vous voyez, il y a plusieurs écosystèmes qui existent et ces différents écosystèmes ont des espèces qui leur sont particulières. Et l'écosystème, c'est quoi? L'écosystème, c'est donc cet ensemble-là, là où vous avez les êtres vivants et leur milieu de vie et les différentes interactions qui existent entre ces êtres vivants et leur milieu de vie. Voilà donc de manière plus simple. Je ne sais pas si je pourrais exprimer à Swahili ou Lingala pour que mon ami puisse comprendre. Donc, globalement, la biodiversité, c'est cette variabilité des êtres vivants, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous avons déjà fait pour aider cette jeunesse? Je venais de dire il y a peu que nous venions de monter, d'abord comme enseignant à l'université de Kisangani, chaque jour, dans tous mes enseignements, je ne cesse de parler à la jeunesse de la biodiversité, du rôle de chaque espèce, de rôle que chaque espèce joue dans les écosystèmes. Chaque espèce, telle que nous voyons, a un rôle particulier. Vous voyez? Et il n'y a pas une autre espèce qui peut jouer le rôle d'une autre. Et si vous rasez une espèce, vous enlevez cette espèce de cet écosystème, vous créez un déséquilibre dans les écosystèmes. Et donc, la vie deviendra difficile. Toutes les espèces qui existent, chacune d'elles a un rôle particulier. Voyez-vous? Et donc, toutes les espèces ont le droit de vivre et chaque espèce a un rôle particulier à jouer. Et donc, chaque jour, dans toutes mes discussions, dans mes échanges avec mes étudiants, avec mes collègues d'autres facultés, etc., je leur parle de cette affaire de la biodiversité. Mais au-delà de cela, vous savez, nous avons déjà écrit des articles pour preuve. Mettez mon nom sur Google. Vous voyez, vous allez voir les articles que j'ai déjà écrits. Mais je me suis dit, mais limité au niveau des articles. Parce que là, c'est des gens d'un certain niveau, n'est-ce pas? Certaines personnes qui ont un certain niveau de connaissances en biodiversité, en écologie, etc., qui peuvent mérir. Mais là, nous sommes allés plus loin pour créer une petite structure. Et dans cette structure-là, se retrouve le jeune. Le jeune de tous les niveaux. Nous essayons de leur donner des notions basiques de la conservation, de leur donner les notions basiques de la biodiversité. Comme ça, ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir conserver la biodiversité. Parce que tous, nous dépendons, n'est-ce pas, de cette biodiversité, parce que nous faisons partie aussi intégrante de cette biodiversité. Et donc, si nous nous mettons à détruire la biodiversité, nous serons les premières victimes de la destruction de cette biodiversité. Qu'est-ce que je propose? J'ai toujours proposé plein de trucs, des propositions, il y en a. Je vais vous en donner quelques-unes. J'ai dit l'autre fois que une manière vraiment d'aider la jeunesse, c'est de pouvoir les regrouper. Et j'ai dit dans les grands centres, là où on a la possibilité de créer des jardins zoologiques, de créer des jardins botaniques, la faculté des sciences ici, par exemple, nous ouvrons toujours, chaque année, il y a ce que nous appelons la journée porte ouverte. Nous invitons la jeunesse de tous bords pour que cette jeunesse vienne se rendre compte de ce que nous faisons et le rôle de la biodiversité. Et donc, encadrer la jeunesse, créer des zoos, des jardins zoologiques et des jardins botaniques constituerait véritablement un levier permettant à la jeunesse de comprendre le rôle de la biodiversité et l'importance de cette biodiversité. Mais au-delà de tout, il y a possibilité d'organiser des conférences dans les centres, etc., pour donner de la matière à la jeunesse pour que celle-ci comprenne le bien fondé de la biodiversité.
Bien, on va accueillir Gaston de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour,
quelle est votre préoccupation?
Bon, je suis intéressé par le sujet parce que moi-même, je suis femme de nature. Vous avez même parlé de la forêt. Vous savez, moi, je vis dans la forêt. Je parle de mes habitudes. Je même bien contempler, qui aime respirer ce silence qui est dans la forêt. Et j'aimerais dire une chose. Nous avons des savanes, on a aussi des forêts, je les passe parfait. Et surtout les forêts actuellement sont les propriétés des grandes forêts, qui sont les propriétés des autochtones, qui peut-être n'en font pas grand chose. Et peut-être l'idée serait d'inciter cette jeunesse-là de pouvoir voir comment exploiter, en tirer bénéfice surtout sur les plans de découverte et exploitation. Des forêts que nous disposons, parce que sans vous mentir, moi je suis dans une région où il y a une grande forêt, hein, vous vivez dans la forêt, vous voyez tout ce qu'il y a comme forêt, vous n'avez même pas intérêt de perpétuer les espèces naissent.
Vous parlez de quelle forêt, Maître Gaston?
Non, forêt, moi je suis frontalier du Kassai là. Forêt équatoriale, je peux qualifier le ventre des forêts équatoriales aussi. Mais nous, nous sommes d'autres entités. C'est, là, j'allais dire tout simplement que les autochtones qui vivent ces grandes forêts-là, où ils n'ont pas intérêt à vouloir protéger, parce que c'est d'ailleurs la forêt qui est à l'état naturel, où les arbres poussent à être coupés.
Oui, mais pour vous, comment impliquer les jeunes? Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour impliquer les jeunes dans la protection de la forêt?
Surtout si ta citadelle, doivent savoir que c'est dans nos forêts, vers les arrières, à l'intérieur de la ville, qu'on doit travailler sur nos espaces qui existent. Et ceux qui vivent surtout les milieux ruraux doivent être éduqués, renforcés, pour qu'ils puissent exploiter les forêts que nous disposons.
Eh bien, donc, Maître Gaston, pour vous, les jeunes doivent être éduqués, beaucoup plus sensibilisés par rapport à la protection de nos forêts.
Mais il y a aussi un aspect, j'ai dit, concernant nos forêts qui sont sur le plan atmosphère, que nous respirons sur le plan mondial, où c'est déjà un droit acquis. Moi, je pense aussi que tout le monde qui actuellement respire grâce à nos forêts que nous ne savons pas utiliser, qui est d'abord... Et d'ailleurs, bien exploité abusivement ici, avec les grandes opérations, les grandes actions, les grands travaux, et puis que tout ce monde-là puisse nous aider sur d'autres plans. Et qui doit vraiment prendre en charge cet aspect-là de formation et surtout nous aider aussi sur d'autres plans, parce que nos forêts, notre espace que Dieu nous a donné,
bien, merci beaucoup. Donc, sensibiliser les jeunes et puis les former par rapport à la protection de la forêt. Kachai, vous êtes à Kanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à monsieur le professeur, l'invité de la radio Rapide.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Kachai?
Merci beaucoup, monsieur Jody. C'est bien, le professeur a montré l'importance de l'implication des jeunes dans la protection de l'environnement à travers des conférences, des activités que l'on organise. Mais je ne sais pas, hein, je voulais demander à monsieur le professeur, beaucoup d'universités de la RDC et les instituts supérieurs organisent des facultés d'agronomie et développement communautaire, environnement et que sais-je encore. Maintenant, je ne sais pas, monsieur le professeur, à partir des universités, est-ce que l'université de la RDC ont parfois des jardins botaniques au sein desquels les étudiants peuvent d'abord effectuer les stages, faire des pratiques? Il y a certaines universités qui organisent l'agronomie, mais vous ne trouvez aucun arbre planté sur le site universitaire. Je ne sais pas si tout ça doit imputer sur les dos du gouvernement à telle enseigne que ce sont les universités qui produisent d'abord des techniciens, et lesquels techniciens qui ne doivent pas rester à la maison, mais ils doivent alors faire preuve de leur technicité sur terre. Alors dans nos universités, vous ne trouvez pas les arbres. Ils ont des sites universitaires, les sites ne sont pas pris en possession. Deuxièmement, monsieur Jody, comment impliquer les jeunes? Tout dépend aussi de la politique du gouvernement. Aujourd'hui, le ministère de l'Environnement est devenu une vice primature, dans le sens qu'on a donné plus de l'importance à l'environnement jusqu'à ce ministère-là à une vice primature. S'il n'y a pas une politique environnementale arrêtée par le gouvernement congolais, cherchant à impliquer les jeunes, monsieur Jody, mais les jeunes seuls ne pourront pas dire faire quelque chose de plus important, surtout s'ils ne sont pas appuyés. Si vous n'avez pas un financement, si vous n'avez pas un soutien, si vous n'avez pas un encadrement, vous seul, vous n'allez pas quand même atteindre des résultats escomptés. Moi, je voulais proposer à monsieur le professeur, à travers lui, il peut, je veux demander au gouvernement congolais de dicter des politiques environnementales impliquant les jeunes. Alors, vous trouvez même beaucoup de vieux papas, de vieilles mamans qui sont engagés pour planter des arbres, des jeunes boutures, hein, alors que les jeunes sont laissés à leur triste, triste sort. Nous sommes à Kanyuka, monsieur Jody. Beaucoup de jeunes de Kanyuka, de jeunes désœuvrés, se lancent dans la coupe du bois et dans la fabrication de la braise. Au moment où je parle, je suis devant certains jeunes avec des sacs de la braise en train de monter vers la ville pour aller. Mais si vous allez poser la question de savoir, en dehors de ce que vous avez coupé, vous avez rebasé, personne ne vous dira. Alors vous comprenez que parfois les gens ne sont contrôlés dans ce qu'ils font. Si nécessairement, monsieur le professeur, vous allez faire ce là des jeunes Kassaïens, des jeunes Congolais, des jeunes d'État, pour vu que toutes les fois quand il y a la coupe du bois, on reboise encore, c'est une meilleure chose. Deuxièmement, si nos universités adoptent des politiques de reboisement, de prise en possession des sites universitaires, de gestion des aires, des jardins botaniques, pour permettre aux étudiants et les autres à pouvoir s'exercer, ça sera la meilleure chose. aussi. Non
merci Kachai. Merci beaucoup. On a retenu vos préoccupations. Les universités peuvent impliquer les jeunes en plantant les arbres. Déjà au niveau du site, des sites universitaires. Et vous avez parlé d'une politique environnementale aussi financer les activités des jeunes. Professeur Amoudala, vous avez la parole.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je remercie également mon ami qui vient d'appeler, je crois, du Kassai. J'ai noté un certain nombre de choses. Il a parlé des jardins botaniques dans les sites universitaires, il a parlé de plantation des arbres, etc. Tout ce que je devais dire ici, c'est que l'éducation sur, je vais dire, l'éducation mésologique, n'est-ce pas, devait commencer depuis l'école maternelle, l'école primaire, secondaire, et l'université devait être vraiment, devait porter les chapeaux de toutes ces choses. Je me rappelle quand on était encore élève, déjà à l'école primaire, on allait dans des vergers des différentes écoles. C'était donc des jardins, si vous voulez, des arbres fruitiers qui étaient plantés par les enseignants, par les élèves, etc. Et donc, planter les arbres, ça c'est la fin de tout le monde. Il faut pas attendre qu'on a l'université pour commencer à planter les arbres. Donc tout le monde doit planter les arbres. Et pour que les gens plantent les arbres, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sont en train de planter ces arbres. Il faut donc expliquer aux gens que nous, la vie sur Terre, notre vie, dépend directement de l'existence de la végétation, de l'existence des arbres. S'il n'y a pas d'arbres, nous n'aurons pas d'oxygène. Et donc tous, nous devrions planter des arbres. On ne doit pas attendre à l'université pour planter des arbres. Ça, c'est une chose. Donc tous, nous devrions nous donner ces objectifs-là. Au moins par an, chacun de nous, s'il pouvait planter 2-3 arbres, ce serait déjà intéressant. Partout où il se trouve. Vous voyez, ça aiderait donc. Et donc l'autre chose, c'est que on a remarqué que depuis un temps, il y avait, par exemple, je parle de la ville de Kisangani, il y avait beaucoup d'espaces verts qui existaient. Mais je vais dire, la politique du pays étant ce qu'elle est, excusez-moi de le dire, tous ces espaces verts ont été rasés. On a attribué aux gens. Et ils ont construit des immeubles là-bas. Vous comprenez? Et donc, c'est des vrais problèmes que nous avons. Des véritables problèmes. Et donc, si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes de manière vraiment directe, nous allons droit vers le mur. Et on risquera d'en payer vraiment les prix trop cher. Et donc, c'est des choses qui peuvent paraître simples, mais dont les conséquences sont vraiment, vraiment terribles. Et donc, pour moi, on devait nécessairement demander, sensibiliser tout le monde à ce que chacun de nous puisse avoir la possibilité de planter par an 2, 3, 4, 5 arbres. Ce serait vraiment intéressant et on va commencer à résoudre petit à petit ces problèmes. Moi, je me dis le plus souvent, notre pays, c'est le pays qui a le massif forestier le plus important, mais nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Dans des grandes conférences. Tout simplement parce que nous ne fournissons pas trop d'efforts à pouvoir reboiser.
Professeur Amoudala, il y avait même un projet de planter 1 million d'arbres dans notre pays. Où est-ce qu'on en est avec ce projet?
Ah voilà, c'est très bonne question. Il faut savoir combien d'arbres finalement on a planté. Et donc vous voyez, nous sommes très forts dans des slogans. Faisons ceci, etc. Mais nous avons des vrais problèmes à faire les suivis de ce que nous amorçons le plus souvent. Vous comprenez? Et donc, si on arrivait à pousser les gens, je me pose toujours des questions. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous avons la possibilité de faire mieux, mais nous n'arrivons pas à le faire. Nous, tout ce que nous disons, massif forestier, si de tous les dirigeants, etc., qui crient massif forestier, si on peut nous dire qui a planté un seul arbre pour que nous puissions avoir ce massif forestier, c'est qui?
Et pourtant, le projet, c'est d'implanter, ça a été même annoncé par le chef de l'État, implanter 1 million d'arbres à l'horizon 2023. Or, les jeunes, ils ont beaucoup d'énergie, ils peuvent être utilisés dans ce projet.
Voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si on pouvait savoir combien d'arbres on a déjà planté depuis qu'on a lancé cette affaire d'un million d'arbres. Ah, c'est difficile, vous voyez. Les mécanismes ne sont pas mis sur pied pour pouvoir surveiller et savoir qu'est-ce que nous faisons. On dirait que nous gérons les urgences. Chaque fois qu'il y a une urgence, on fait, mais après quelques temps, on laisse passer. Donc, je pense, à mon avis, qu'il faut vraiment mettre des gens qui ont ces notions d'environnement dans les sangs. Il y en a qui deviennent environnementalistes parce qu'ils veulent devenir ministres. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont dans cette histoire depuis des décennies, depuis leur naissance. Pourquoi on ne peut pas leur donner la possibilité de regarder ces choses et d'organiser de manière beaucoup plus sereine? C'est pour le bien de toute la communauté, à commencer par la communauté congolaise et du monde entier. C'est vraiment des choses qu'il faut prendre avec beaucoup plus d'intérêt. Donc, la spoliation des espaces verts, le manque de suivi dans la plupart des choses que nous lançons, la présence parfois des gens qui n'ont pas les cœurs dans l'environnement, ça fait que la plupart des projets en lien avec la réforestation, en lien avec la préservation de la biodiversité, ne marchent pas. Mais aussi les manques d'encadrement de la jeunesse qui a suffisamment d'énergie pour les faire, ben on doit pouvoir canaliser cette énergie pour que ça puisse produire des fruits, sinon ça sera de l'énergie dissipée comme ça, vous voyez. Mais donc, autre chose sur le bois, le bois énergie. Mais pour réduire cette pression sur la forêt pour avoir la braise, mais il suffit d'utiliser, aujourd'hui il y a possibilité d'utiliser les énergies vertes, n'est-ce pas? Les communautés locales qui vivent véritablement en milieu rural comme nous ici, etc. Il y a ces problèmes d'éclairage, il y a ces problèmes d'énergie. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour soutenir cette communauté pour qu'elle utilise de moins en moins le bois? Aujourd'hui, on a cette possibilité, mais on ne fait rien. On dit que c'est un pays solution. Enfin, je dis toujours, c'est un pays solution, mais c'est aussi un pays problème. Parce que si nous rasons notre forêt, nous serons les premiers à émettre des grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère, et donc nous devenons des problèmes. Oui. Les sites des tourbières, tous ces sites ne sont jamais identifiés. Les gens vont émettre des grandes quantités de CO2. Donc, il y a autant de choses sur lesquelles on devait véritablement réfléchir.
Professeur Amundala, Kachai nous a dit qu'il faut mettre en place une politique environnementale. Si on veut impliquer réellement les jeunes, il faut qu'il y ait une politique claire.
Je suis d'accord avec lui. La politique environnementale suppose des textes, mais je pense que nous avons déjà suffisamment de textes. Le vrai problème, c'est l'application de ces textes-là. Parfois, on met des gens pour des quotas politiques, excusez-moi, qui n'ont aucune notion de la chose. Ils viennent pour eux se rendre compte aux gens qui les ont mis là-bas. En réalité, la base ne bénéficie pas du tout. Et au final, c'est la base qui... La pauvreté, c'est la base qui a subi au plus haut niveau, etc. Et donc, c'est des vrais problèmes. Je me dis, si nous continuons véritablement à cette allure, un jour, nous allons nous retrouver contre les murs et ce sera difficile de pouvoir avancer. La politique, je suis d'accord, les textes sont là, etc. Mais appliquer ces textes-là, ça, c'est le vrai problème. Et les mesures d'accompagnement, bien sûr.
Bien, je vais lire le message. Message de Jean-Claude Kakina depuis Uvira, Kasenga. Si l'électricité n'occupe pas encore 80% d'utilisation cuisinière et que la jeunesse coupe les arbres pour les transformer en braise, surtout en croyant que c'est le seul moyen pour trouver de l'argent, la biodiversité ne sera pas respectée. La seule solution est de sensibiliser la jeunesse sur la protection de l'environnement. Votre réaction, professeur?
Il a raison en fait, parce que demander aux gens de ne pas faire la braise avec le bois, c'est une chose, c'est une très bonne chose, mais quelle est l'alternative que l'on propose? Quelle est l'alternative? Vous n'allez pas demander aux gens de dormir affamés, de mourir à faim parce que vous voulez préserver la biodiversité et conserver le bois, ce n'est pas possible. Et donc, les gouvernements devaient mettre des moyens. Électrifier les... J'ai fait des études pour le compte de Tropendos International et les résultats ont montré que dans les milieux ruraux, c'est moins d'1% des communautés rurales qui ont des maisons électrifiées. Moins d'1%, vous vous rendez compte. Et les autres, 99,9%, etc. Comment ces gens-là vont vivre? Comment vont-ils cuisiner, etc. Donc, c'est franchement des paroles en l'air. Si on n'arrive pas à électrifier les sites, le gouvernement a fait une étude sur les énergies renouvelables. On a identifié des sites potentiels où on peut construire des centrales hydroélectriques. On devrait commencer par là, construire ces centrales, donner la possibilité à la jeunesse, aux communautés de pouvoir utiliser les énergies et alors de préserver la biodiversité. Et ça attirerait les investisseurs, à mon avis.
Bien, on va.
Il faut commencer par là.
D'accord, on va accueillir Malonga de Kinshasa et Jacques de Fungurume. Malonga, bonjour.
Bonjour à notre professeur.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'implication des jeunes dans la protection de la forêt et du bassin du Congo?
Merci beaucoup. Il faut d'abord un encadrement. Mais aujourd'hui, je vais dire d'abord que je vais soulever ce que le professeur, mon ami Kachai, a soulevé là. Qu'il faut instaurer une politique environnementale. La politique environnementale est là. Hein? Et d'abord, si on avait donné la primature, la vice-primature de ce ministère d'environnement et de développement durable, ce suite à sa valeur, le ministère est là de l'environnement. C'est la politique environnementale. Ce qui manque, c'est la volonté, je dis. Et c'est ce que je vais insister. Vous savez, pour une information, est-ce que vous savez qu'après 7 ans, il y a une révolution juvénile? Puisque les jeunes se révolutionnent après 7 ans. Alors, si on n'était pas contre de ça, en tout cas, on risque de détruire tout notre espace environnemental. Alors, il faut s'imposer à ce secteur-là. Nous avons les 26 provinces. Et puis, dans ces 26 provinces, nous avons les 26 coordinations de l'environnement et développement durable, parmi laquelle, dans lequel il y a un bureau chargé de reboisement. C'est ce reboisement qui récompense toutes les pertes qui se font d'ici de là par la population et puis reboise à un espace déjà encadré par l'État, mais ce service-là ne fonctionne pas suite au manque de la volonté politique.
Bien.
Tout le monde doit reboiser.
D'accord. Merci Malonga. On retient que c'est, il y a la par rapport à la politique existe déjà, les textes sont là, mais c'est la volonté qui manque pour mettre en œuvre les dispositions, ce qui est écrit, ce qui est prévu pour protéger l'environnement. On va donner la parole à Jacques Defongourou-Mé. Bonjour.
Bonjour Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'implication des jeunes dans la protection de la forêt du bassin du Congo?
Vraiment, moi je voudrais savoir, pour que l'invité puisse nous répondre, par rapport à la protection des espèces et surtout dans le rôle que chaque espèce ou individu doit jouer dans la nature. Je vois certains...
Veuillez réduire le volume de votre radio ou éloignez-vous de votre radio. Vous allez suivre un pas à votre radio, mais à partir de vos téléphones.
Ok, je disais ceci. Dans la protection des espèces, il y a les insecticides où, quand on les utilise, par exemple, on tue un grand nombre, par exemple, de mouches. Quand vous exposez ces produits-là, les mouches viennent s'y poser. Tout insecte qui se pose est bloqué directement là-bas, puis mourir comme ça.
Oui, maintenant, comment on peut impliquer les jeunes? Comment faire pour que les jeunes soient impliqués dans tout cela?
Je voudrais que l'invité puisse nous répondre à cette question pour savoir qu'il n'y a-t-il pas moyen de pouvoir limiter ou de pouvoir surveiller les fabricants de ces produits-là pour
bon.
Que ces espèces ne puissent pas disparaître de cette façon.
Et la dernière ce n'est pas notre sujet du jour. Désolé. Aujourd'hui, nous parlons de la contribution des jeunes dans la protection de l'environnement. Platini, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Je dis bonjour, je salue tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au thème du jour?
Voilà, merci. Je pense que je suis un peu en retard parce que j'ai le sujet un peu en retard. Mais quand ce n'est pas le tien, parce que c'est un sujet qui nous concerne, nous, en tant que jeunes, congolais. Et aussi, moi, je parle parce que je suis là où il y a la forêt, donc à l'époque. Bon, je dis, je ne sais pas si je peux dire autour de cet homme thématique du jour, par rapport à la protection des forêts, je pense que nous, la jeunesse, aujourd'hui, nous avons l'obligation de protéger. Et c'est protéger aussi, surtout les forêts. Parce que les forêts, on sait que dans les prochains jours, les forêts peuvent aussi porter aussi les choses qui sont dans les bords. Voilà un peu ce que moi je veux ajouter et parler à cette thématique. Donc nous devons tous vraiment protéger, surtout nous les jeunes.
Oui, Platini, l'invité a dit tout à l'heure qu'il est important de regrouper les jeunes en coopérative pour que... Est-ce que en Mbandaka, par exemple, il y a des groupes, des ONG ou des associations des jeunes qui travaillent déjà dans la protection de l'environnement?
Ils sont nombreux, il y en a. Je peux dire ici, il y a ONG la GACH, c'est ça que ce qu'on dit, la groupe d'action pour sauver l'homme et son environnement. Donc c'est ce qu'on appelle la GACH. Et ils se réunissent parce qu'il y a aussi un groupe de jeunes, l'association de jeunes pour le développement, donc AJUD, qui se trouve aussi dans la ville de Mbandaka. Ce sont des années sur le terrain. C'était à côté de Bassan-Kousso. Donc, il y a au moins 360 km dans la ville de Manaka. Parce qu'il y a un petit parc là en face de Bassan-Kousso, là, au secteur de Goumalo. Et à côté là, il y a un petit parc là que l'ICCN récupérait pour bien se garantir. Cette ONG commence à regrouper un peu les jeunes, à mobiliser un peu les jeunes de Bikor sur le terrain. Il y a aussi même une équipe dans le territoire de Bikor qui se situe sur le terrain. On voit aussi comment, à côté de lac Toumba, je crois qu'il y a face ici, à lac Toumba, voilà un peu ce que cette ONG la font. Mais aujourd'hui, moi je veux vous dire une chose. Bien qu'il y a des regroupements, il y a des associations, il y a passé par là, etc. Mais à la fin des comptes, si aujourd'hui il y a sorti une offre passée par là, au niveau de l'ONG, il y a aussi des jeunes qui terminent dans nos différentes universités supérieures ou sortent, qui terminent dans nos universités. Mais il y a carence de recrutement, surtout les jeunes, pour travailler dans tel domaine, surtout des domaines de l'environnement. Là aussi, ça pose un sérieux problème.
Merci beaucoup. Merci Platini de Mbandaka.
D'accord. Ce qui est essentiel, surtout nous les jeunes, pour intégrer dans nos systèmes. Notre système pour que dans les prochains jours qu'on puisse bien garder nos forêts.
Nos forêts. Merci Platini. On va donner la parole à Evelyne Dekananga. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel. Bonjour à notre invité, à tous les éditeurs.
Alors, selon vous, comment impliquer les jeunes dans la protection de l'environnement?
Comment les sensibiliser? Nous prenons en premier lieu les musiciens congolais.
Oui.
Nos musiciens ont pris les jeunes en otage. C'est eux qui doivent commencer cette sensibilisation-là. Je crois que le gouvernement congolais doit travailler avec les musiciens, nos musiciens. De deux, les pasteurs qui sont considérés comme les seigneurs de terre, je crois qu'ils doivent prendre cette sensibilisation-là en main. Parce que si le pasteur le dit, ça sera une parole d'évangile. Ce sont les pasteurs qui doivent s'impliquer vraiment pour pouvoir éduquer notre population, surtout les jeunes, dans la protection de notre environnement. J'aurais souhaité que presque à peu près 4 ministères se mettent ensemble. Il y a celui de l'environnement, celui de la jeunesse, celui de l'emploi, et celui de la formation professionnelle. Celui de la jeunesse produit les jeunes. Il les met à la disposition du ministère de la formation professionnelle. Celui-là les forme. Après les avoir formés, il les met à la disposition du ministère de l'Emploi. Celui-là s'occupe de... À la fin des comptes, celui de l'environnement se pointe maintenant pour dire aux jeunes, voilà, vous avez de l'emploi, soit vous êtes utilisé par le gouvernement congolais, soit c'est dans l'entrepreneuriat, eh bien, ne touchez pas à l'environnement. Dès lors que vous avez de l'emploi en main, vous êtes dans l'obligation de protéger l'environnement. Et là, le Parlement congolais prend la chose en main pour voter des lois afin de contraindre les jeunes de ne pas déraper, de ne pas aller au-delà.
Merci Madame Evelyne. Merci beaucoup. Professeur Amunda Ladrazo, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci également à Madame Evelyne. Je pense que Madame Evelyne a raison. Le ministère de l'Environnement ici, un ministère, si vous voulez, transversal. Tous les autres ministères, elle a parlé de la jeunesse, de l'emploi, formation, etc. Moi, je pourrais même aller au-delà de cela. Finances, budget et tout ça. Donc, tous ces ministères devaient aider l'environnement. Parce que l'environnement englobe tout. Si nous n'arrivons pas à préserver notre environnement, tout sera gâché. La santé et tout, etc. C'est dans l'environnement. Voyez. Et donc, nous avons véritablement intérêt à pouvoir préserver la biodiversité. Et pour nous, Congolais, ça c'est une des richesses extraordinaires que nous avons. Et nous l'avons acquise comme ça. Aucun Congolais ne dira qu'il est parmi les acteurs qui ont planté les arbres chez nous. Non. C'est un héritage que nous avons eu. Et donc, nous avons vraiment le devoir de pouvoir préserver cet héritage. Et donc, tous les ministères devaient se mettre ensemble, affaires étrangères, etc., chercher des moyens, parler. Donc, tous les ministères doivent se mettre ensemble pour soutenir les ministères de l'environnement, de manière à ce que celui-ci puisse devenir vraiment un moteur de levier. C'est possible. Il y a beaucoup de pays africains qui ont réussi à développer leur pays en s'appuyant, en utilisant la forêt, en utilisant les ressources naturelles comme béquilles de développement. C'est possible chez nous, mais c'est un problème d'organisation, problème de leadership. Ça, c'est le vrai problème. Les jours où nous aurons véritablement des leaders qui ont des visions claires sur l'environnement, qui ont l'environnement dans leur sang, pas des gens qui deviennent environnementalistes parce qu'ils veulent devenir ministres. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont cette capacité de faire, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire tout. Non. Donc, mon vrai problème, c'est que lorsqu'on aura des leaders éclairés et des leaders qui voudraient bien s'appuyer sur les ressources naturelles pour faire de ces secteurs les piliers de développement, notre pays pourrait se développer sans problème. Parce que vous savez, ailleurs, il y a l'écotourisme, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de plantes qui peuvent être utilisées aujourd'hui comme de sources de médicaments. Mmh. Pourquoi ne pas développer ? Là, c'est le secteur de la recherche. Donc, ça s'appuie d'accord, toujours professeur. Sur les ressources naturelles. Donc, oui. Madame a raison, mais je voudrais être beaucoup plus globalisant en disant que tous les ministères qui existent peuvent s'appuyer sur les ministères de l'environnement, ils peuvent soutenir les ministères de l'environnement pour que celui-ci devienne véritablement un moteur de recherche, un pilier de développement pour notre pays.
Professeur, pour terminer, si on doit quantifier en termes de pourcentage, on peut estimer à combien de pourcentage le nombre des jeunes impliqués aujourd'hui dans la protection de la forêt du bassin du Congo, dans notre pays.
Franchement, je dois dire que ce nombre est encore inférieur. Inférieur, dans je ne peux même pas parler des 10%. Pourquoi pas ? Parce que, par exemple, si je considère la région de l'Est, d'ailleurs, je pensais que mon ami de Bougna allait intervenir pour qu'il donne un peu son point de vue, mais la région de l'Est, par exemple, de Bougna, aujourd'hui, qui est rasée par les conflits, c'est difficile de pouvoir aider les jeunes. Et beaucoup de jeunes, faute de moyens, ils doivent s'attacher à des choses parfois viles qui ne marchent pas pour essayer de vivre. Si on arrivait à sécuriser les territoires et que si on arrivait à mettre les jeunes ensemble, je crois que le secteur de l'environnement pourrait se développer. Donc, à mon avis, aujourd'hui, pour répondre à votre question, je dirais que c'est vraiment un pourcentage
moins de 10%
qui se trouve impliqué véritablement dans la conservation de la biodiversité pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la pauvreté, le manque d'emploi et le manque des structures capables à pouvoir mettre ces jeunes ensemble et alors canaliser leur énergie pour conserver la biodiversité.
Bien, professeur Amunda Ladrazo, expert en faune sauvage, intervenant depuis l'université de Kisangani. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.